VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er janvier 2018. Excellent début d'année à toutes et à tous. À la une ce soir, une loi d'entente nationale au Mali, annonce faite hier à la Nation par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Début d'année sanglant en RDC où 8 personnes sont mortes hier et une centaine d'autres arrêtées. La francophonie dénonce des attaques inqualifiables. La Mauritanie a une nouvelle monnaie. L'ougouya est entrée en circulation ce lundi, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement. Le temps du changement est venu en Iran. Le peuple a faim de nourriture et de liberté. Affirmation ce lundi du président américain. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le gouvernement malien va proposer une loi d'entente nationale. Si les contours de ce projet de loi ne sont pour l'instant pas connus, Ibeka trouve qu'il apporte un apaisement, une réinsertion des combattants qui déposeront les armes et l'exonération de poursuites de tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
En se basant sur les recommandations issues de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue en mars et avril 2017, Ibrahim Boubacar Keïta propose un projet de loi sur l'entente nationale. Il trouve que la charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation issue des conclusions de la conférence d'entente reconnaît les causes profondes de la crise que le Mali a connue depuis son indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta.
La charte propose des mesures spéciales de cessation de poursuites ou d'amnistie en faveur de certains acteurs de la rébellion armée de 2012. Suivant ces recommandations, je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains, des mesures également d'apaisement pour l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence.
Au président malien d'ajouter que son projet de loi n'est ni un aveu d'impuissance, ni une prime à l'impunité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'année 2018 commence donc et comme des traditions, de nombreux chefs d'État se sont adressés à leur peuple. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé dimanche la tenue d'élections législatives en 2018. Il me plaît d'annoncer à l'orée de l'année nouvelle que des élections législatives seront organisées en 2018, a déclaré le président Déby dans un discours retransmis à la télévision nationale. La troisième législature à l'Assemblée devait se tenir le 21 juin 2015, mais une loi constitutionnelle l'avait prolongée. Quant au président gabonais Ali Bongo Ondimba, il a annoncé lors de ses vœux du 31 décembre dimanche vouloir mettre en œuvre un changement radical de gouvernance et vouloir faire de la cohésion des Gabonais son ambition. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a lui souligné sa volonté de transformer l'armée en une force véritablement républicaine après une année 2017 marquée par des mutineries. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a promis de renforcer son armée qui fait face à des groupes djihadistes responsables d'attaques meurtrières et récurrentes. Au Burkina Faso, le colonel Auguste Denise Barry, ministre de la Sécurité sous la transition, a été arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête. On lui reproche d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir. Yacouba Ouédraogo, jusque-là, on en sait très peu.
Les sources sécuritaires se contentent de confirmer que le colonel Auguste Denise Barry a été arrêté dans le cadre d'une enquête. D'autres sources, selon le journal en ligne Le Faso.net, ajoutent qu'il est soupçonné d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir de Roch Kabore. Dans le cadre de cette même enquête, l'ex-chef d'état-major adjoint de la gendarmerie, le colonel Serge Alain Ouédraogo, a été entendu puis relâché dimanche. Éphémère ministre délégué chargé de la sécurité sous Blaise Compaoré, le colonel Barry avait rempilé au poste en tant que ministre plein sous la transition. À l'époque, certains le présentaient comme le cerveau de l'homme fort du moment, l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Accusé de plusieurs coups tordus sous la transition au profit de son mentor Zida, le président Michel Kafando a été obligé de l'éjecter du gouvernement. Dans son retranchement, le colonel Barry a créé, avec certains de ses compagnons, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, une sorte de think tank basé à Ouagadougou.
En RDC, au moins 8 personnes sont mortes hier et une centaine d'autres ont été arrêtées à marge de manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le président congolais qui a assuré que la publication de l'échéancier qui prévoit la tenue de la présidentielle au 23 décembre 2018 conduit de manière irréversible vers l'organisation des élections. Mais pour les catholiques congolais qui ont manifesté hier, ces discours ne passent pas, un accord ayant été signé il y a un an sous l'égide des évêques et qui prévoyait des élections en fin 2017. Le mandat du président Kabila s'étant achevé en décembre 2016. Toujours en RDC et en rapport avec ces événements de dimanche, la francophonie a dénoncé ce lundi les attaques inqualifiables et désolantes contre des fidèles et des citoyens, exhortant les autorités de ce pays à garantir le droit de manifester. Participer à une manifestation est un droit fondamental, a déclaré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, dans un communiqué. La nouvelle monnaie mauritanienne est là. L'ougouya améliorée est entrée en circulation aujourd'hui, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement en cette nouvelle année. Plus de détails avec Raïssa Gironde.
5 semaines après l'annonce du président Mohamed Ould Abdelaziz lors de la fête de l'indépendance du pays, la monnaie mauritanienne a changé d'unité. À partir d'aujourd'hui, 10 ougouyas devient un ougouya. Un changement majeur qui pousse la Banque centrale de Mauritanie au retrait progressif sur le marché des anciens billets et pièces. Après avoir démenti les rumeurs de dévaluation de l'ougouya, la BCM assure qu'il conservera sa valeur et le pouvoir d'achat des citoyens ne s'en ressentirait pas. Son principal leitmotiv, protéger la monnaie nationale contre la falsification en la remplaçant par des séries plus fortes et plus sûres. Les Mauritaniens se rendent donc dès aujourd'hui au guichet des banques pour échanger leurs anciens ougouyas contre de nouveaux. L'ougouya a perdu ces derniers mois de sa valeur au marché noir face à l'euro et au dollar, mais la tendance s'est aggravée depuis en raison d'une hausse de la demande de devises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a laissé entendre lundi qu'il pourrait supprimer l'aide fournie au Pakistan dans son premier tweet de l'année 2018. Les États-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan ces 15 dernières années, mais ils ne nous ont rien donné en retour, sinon que des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots, a écrit le président des États-Unis dans son tweet envoyé peu après 7 heures du matin. Toujours aux États-Unis, plus de 300 actrices ou femmes scénaristes, metteuses en scène et autres personnalités du cinéma ont lancé aujourd'hui un projet destiné à permettre de lutter concrètement contre le harcèlement sexuel, aussi bien à Hollywood que dans d'autres métiers partout aux États-Unis. Le projet Times is Up, traduisé, c'est fini, disposera notamment d'un fonds destiné à financer un soutien légal pour les femmes et les hommes victimes de harcèlement sexuel au travail. L'organisation a déjà recueilli plus de 13 des 15 millions de dollars qu'elle s'était fixés comme but pour ce fonds. En Iran, 12 personnes ont été tuées depuis le début, il y a 5 jours, des protestations anti-gouvernementales. Bagassi Koura, ces manifestations ont été, dit-on, suscitées par des difficultés économiques.
Oui, depuis jeudi, des manifestants descendent dans les rues du pays contre la vie chère et contre le pouvoir. Ce dimanche soir, 2 personnes ont été tuées et d'autres blessées à Izée lorsqu'ils ont voulu manifester comme ailleurs dans le pays. Je ne sais pas si les tirs provenaient de forces de l'ordre ou des manifestants, a dit un député local cité par l'AFP. Toujours dimanche soir, deux autres personnes ont péri dans la ville de Dorudo, dans l'ouest du pays, dans un incendie lié indirectement aux manifestations. Deux autres personnes ont été tuées samedi soir dans cette même ville, mais le vice-gouverneur de la province avait affirmé que les forces de l'ordre, les violences de dimanche soir ont eu lieu malgré un appel du président Hassan Rouhani au calme. L'Iran a de son côté dénoncé les ingérences des États-Unis dans ses affaires. Le président Trump a en effet apporté son soutien aux manifestants via Twitter.
Un seau en argile datant de 2700 ans et découvert à Jérusalem a été présenté comme une première preuve matérielle de l'existence d'un gouverneur dans cette ville, selon l'autorité israélienne des antiquités. Cet artefact rond de la taille d'un bouton a été trouvé dans un bâtiment sur l'esplanade du mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem. Il date du 6e ou 7e siècle avant notre ère et illustre l'existence d'un dirigeant à Jérusalem, a ajouté l'autorité dans un communiqué. Cette période correspond à celle du premier temple juif dans la ville sainte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Bagassi Koura.
Le gouvernement congolais a présenté la semaine dernière le projet de loi de finances 2018 avec des dépenses en baisse de 7,6% après avoir réduit le budget 2017 de 44%. Le Conseil des ministres a adopté le 27 décembre le budget 2018 qui atteint 1603 milliards de francs CFA en recettes et 1384 milliards de francs en dépenses. Ce projet de loi des finances 2018 prévoit de réaliser un excédent budgétaire chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le premier centre incubateur, dont le bâtiment a coûté 350 millions de francs CFA, va ouvrir ses portes à Abidjan au premier trimestre de cette année, a indiqué le ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarasouba, cité par Fraternité Matin. Ce centre incubateur va permettre aux porteurs de projets et aux entreprises en quête de performance d'avoir des connaissances nécessaires afin de poursuivre leurs activités. Comment se sont comportées les bourses africaines l'année dernière? Et puis en 2017, la plupart des actions ont connu une évolution positive, à l'exception de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest, qui concerne les entreprises dans la zone UEMOA. Selon Jeune Afrique, la BRVM, basée à Abidjan, a connu un recul de 20% au 27 décembre, après avoir chuté de plus de 9% en 2016.
Une musique qui ne trompe pas, c'est l'heure du sport, toujours plein d'énergie. Yacouba est dans ce studio. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Yann, bonsoir à tous.
Hamad, personnalité sportive de l'année.
C'est le choix du groupe All Africa Global Media, basé à Washington. D'après ce groupe, le Malgache est récompensé pour les initiatives déjà menées depuis son arrivée à la tête de la CAF, notamment la réforme des compétitions majeures, dont la CAN, l'organisation du symposium de Rabat, mais surtout l'aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. La Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a été honorée aussi du trophée Pride of Africa pour sa contribution au développement du football sur le continent et partout dans le monde. La Belge d'origine sénégalaise Nafissatou Thiam, championne olympique et du monde de l'heptathlon, est aussi récompensée de son année. Elle a d'ailleurs été élue en novembre dernier athlète de l'année par l'IAF.
Et le Cameroun, premier du classement Jeune Afrique 2017 des sélections nationales.
Vous l'annoncez avec un sourire, John. Après la RDC en 2016, le Cameroun est le nouveau leader du classement annuel des sélections africaines de Jeune Afrique. Certains grands du continent comme l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie restent en haut de l'affiche, quand d'autres, tels la Côte d'Ivoire ou l'Algérie, ont à peu près tout raté. Cependant, le bilan chiffré du Cameroun n'est pas le plus flamboyant de l'année. Les Lions Indomptables n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde et leur parcours en Coupe des Confédérations s'est arrêté au soir du premier tour. Seul crédit à leur actif et apparemment déterminant d'ailleurs pour nos confrères de Jeune Afrique, c'est la CAN 2017 remportée après 15 ans d'attente, alors que le Cameroun était considéré au mieux comme un outsider.
Transfert, le mercato d'hiver s'est ouvert aujourd'hui. Sambasso a décidé de prolonger avec le Dynamo Moscou.
Visiblement, l'international malien se sent bien dans la capitale russe. Arrivé l'été dernier au Dynamo Moscou en provenance de Kayserispor, Sambasso est déjà un pilier. Six mois après, l'ancien milieu de terrain de Lens, 28 ans, a donc paraffé un nouveau contrat selon l'équipe.
Et on termine, Yacouba, par Karamboj qui est indécis pour le moment.
Je ne sais pas si je vais terminer la saison ici, a affirmé le défenseur international sénégalais qui connaît une saison mouvementée avec Anderlecht. La cause des blessures, notamment au talon d'Achille. Le contrat de Karamboj court jusqu'en juin 2020 avec les Mauves, mais le lion de la Teranga n'exclut pas un départ cet hiver.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon, mise en onde de Lionel Gaïma. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Cameroun où la précarité s'accroît de plus en plus au sein des couches vulnérables. Le constat est du gouvernement camerounais et parmi les couches les plus touchées, il y a les personnes handicapées, mais certaines ne baissent pas les bras et se battent pour être actives et autonomes. C'est le cas des femmes handicapées de Handicap Home à Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Juntap leur a rendu visite.
C'est au lieu dit Escale Mangué qu'est implanté Handicap Home. Une vingtaine de femmes handicapées formées à divers métiers ont été regroupées sur le site. Marie-Crescence Epi vit avec un handicap. Elle est aussi déléguée de Handicap Home à Yaoundé.
Papa Roger Mila nous a offert 16 ateliers. On ne paie ni loyer, ni courant. Nous sommes libres de nous-mêmes. On travaille selon les commandes.
Ces femmes handicapées occupent des conteneurs soigneusement aménagés en salon de coiffure, restaurant boutique, atelier d'artisanat et de couture. Corinne et Christelle, les deux plus jeunes de l'atelier de couture, reviennent de loin.
Comme moi, je reste au quartier, donc je ne savais pas là où je devais faire ma couture. La petite couture, là, donc, ça m'aide à gérer mes petites choses que j'en ai besoin.
L'ambassadeur itinérant Roger Mila, il nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait. On a donc dit qu'on voulait un site pour s'installer, pour pouvoir travailler. Je résous mes problèmes par rapport à cette structure. C'est un peu comme quand j'étais à la maison.
L'on en dirait autant de Monique qui, béquille aux aisselles, coiffe à merveille et forme des personnes valides et invalides depuis 5 ans à la coiffure.
Présentement, j'ai 3 qui suivent la formation. Je suis autonome, je me sens à l'aise. Je fais dans la coiffure, je fais même l'esthétique. Quand les gens viennent, ils me payent.
Au Cameroun, les enfants en détresse, les personnes âgées, les handicapés sont considérés comme des couches vulnérables. L'ex-footballeur international Albert Roger Mila s'est mis aux côtés de cette catégorie de Camerounais à travers sa fondation Cœur d'Afrique. Jean Keller Côté, directeur de projet de la fondation Cœur Afrique.
Nous allons au-delà de ce que fait le ministère des Affaires sociales. Nous avons une grosse composante orphelins enfants vulnérables. Nous avons une composante enfants de la rue. Nous avons les personnes âgées. Nous avons une importante composante de personnes handicapées. Nous avons de façon spécifique les anciens sportifs en situation de vulnérabilité que nous accompagnons.
Il reste que le nombre de personnes vulnérables en attente d'assistance au Cameroun est de plus en plus croissant. Le gouvernement dit s'en préoccuper, mais sous certaines conditions. Henri Yambi Troadikoso, directeur de la Solidarité nationale, au ministère des Affaires sociales du Cameroun.
Quelle que soit la nature de l'aide qu'on sollicite, adresser sa demande à une de nos unités techniques opérationnelles ou directement à la commune de résidence et attendre que la demande puisse être examinée dans le cadre d'un comité local d'attribution des aides.
Une démarche qui, pour certains Camerounais, est de nature à accroître davantage la vulnérabilité des couches vulnérables du pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel pour votre émission interactive À votre avis. L'année 2018 vient de démarrer. Quels sont vos vœux et vos résolutions pour cette nouvelle année? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
En RDC, les habitants de Lubumbashi sont inquiets de la détérioration très avancée de la voirie urbaine. Pendant cette période pluvieuse, les nids de poules et les flaques d'eau perturbent la circulation. Résultat, les propriétaires des véhicules sont contraints de payer plusieurs taxes au trésor public et doivent faire face aux barricades érigées sur les routes et au recouvrement forcé des taxes. Malgré tout cela, la réhabilitation de la voirie et beaucoup se demandent où passe l'argent récolté. Narval Mabila.
C'est lui qui a des yeux pour voir, a fait un constat chaque jour qui passe. La voirie urbaine de la ville de Lubumbashi se détériore de plus en plus, et cela aux plusieurs endroits du centre-ville. Avenues, chaussées, boulevards sont affectés, rendant ainsi les transports difficiles, car les nids des poules sont au rendez-vous à plusieurs endroits pendant cette période pluvieuse. Là, nous sommes sur la chaussée de Kasenga au quartier Bel Air Mukala Kimuchi, où la chaussée est presque impraticable, car l'un est usager de la route, il est à notre micro à bord de son véhicule, et cela fait débat.
Bon, la route est tellement impraticable, hein. Vous ne voyez pas les nids des poules partout. Le nid des poules, c'est partout. C'est dû à la pluie. Vous savez que l'ennemi de la route, c'est la pluie. Nous sommes pendant la saison pluvieuse, mais l'État ne savent quoi faire. Nous payons les taxes. Il y a plusieurs taxes. Il y a la patente que nous payons. Il y a le vignette, le contrôle technique. Il y a plusieurs taxes que l'État a créées dans le but de pouvoir arranger la route. Mais jusque-là, la route est tellement impraticable. Ce n'est pas toujours ici, presque sur toute l'étendue de la République.
Même situation dans la commune Katouba, sur le boulevard Katouba, où nous avons croisé M. Lievin Kamwanga, qui revient sur la détérioration de la route.
Il y a un problème. Au niveau de la rivière, là, la route est coupée. Et les gens ne savent pas bien se déplacer, puisque quand il y a la pluie, les véhicules n'acceptent pas d'accéder à Katouba. Ils s'arrêtent au niveau Mampala pour prendre les gens par là et rentrer en ville. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Et puis la route qui va de la Katouba vers la Kenya, au niveau du marché, la route est en train de se corroder. Il y a des petits problèmes à ranger. Les transports font problème quand il y a la pluie. Le problème des tranchées, le problème des petits trous qu'on n'arrange pas rapidement, et finalement ça devient un problème.
De retour au centre-ville, au croisement de l'avenue Moro et Kapenda, un chauffeur de taxi fait son constat.
On est en train de détruire notre véhicule, on abîme les véhicules de temps en temps. Ce n'est pas bien. En tout cas, on est en train de regretter notre gouvernement parce qu'on est en train de payer. On paye des vignettes, on paye tout ce qu'on peut demander, on paye. Mais pour ranger la route, vraiment, c'est compliqué. Quand il pleut comme ça, on ouvre même les installations sanitaires. Ça nous embête vraiment en ville, vraiment. À l'époque de Moïse, on ne voyait pas ces désordres comme ça. Les gens même se plaignent que non, Moïse, en tout cas, il était un monsieur.
Face à cette situation de la détérioration de la voie urbaine, nous avons joint le gouverneur Pande Kapopo par téléphone et son ministre des Infrastructures Nazem Nazembe et son directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. Ils se sont réservés de tout commentaire. Que cache leur silence? Et notre constat est que le tronçon de l'avenue Kamagnola est en réhabilitation parce que le président Joseph Kabila y passera pour inaugurer la réhabilitation du building administratif de la Générale des Carrières et des Mines. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé pour tous les Burundais. Soudeurs, électriciens et autres petites gens demandent au gouvernement de revenir aux anciens tarifs car ils travaillent désormais à perte. Le Burundi produit 40 mégawatts pour un potentiel estimé à plus de 1500 mégawatts. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
6e avenue du quartier de Bouyanzi au centre-ville de Bujumbura, il est 10h GMT quand un technicien est en train de souder juste à côté de la rue. La hausse du prix de l'électricité fait considérablement fuir les clients car le prix a augmenté même pour les constructeurs de petites portes ou de petites fenêtres en fer. Témoignage de cet électricien.
Si par exemple une porte pour le construire, ça demande au moins 15 000. Et si je le dis... Non, il y a au moins les hausses de prix des courants. Je lui dis au moins 50 000. Il dit non. Là, c'est beaucoup. Il va laisser pour aller faire la construction des matériels de bois.
Donc, il y a des conséquences dans votre travail de tous les jours.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ce garagiste estime, quant à lui, que dans un futur proche, ça sera un sérieux problème entre clients et garagistes, car il est difficile de parler d'une même voix, les intérêts divergents.
Si les francs, c'est tout quoi, tout nanounoua.
Avant, on payait pour les 150 kWh 13 000 francs, mais aujourd'hui, nous payons trois fois plus. C'est un sérieux problème pour nous. Avant, on faisait payer une baguette pour souder 500 francs. Aujourd'hui, nous demandons aux clients de payer 2 000 francs à cause de cette hausse des prix de l'électricité. On ne gagne presque rien. Nous demanderions de revenir aux anciens tarifs, car ça serait mieux. Par exemple, un appareil où on soudait par 5 000 francs, aujourd'hui nous demandons 10 000 et les clients n'acceptent pas ce prix. Ça devient un sérieux problème car il n'y a pas d'entente entre les clients et nous les soudeurs.
Pour l'économiste Faustin Ndikumana, ces nouveaux tarifs prouvent le manque de vision de politique de développement économique et de mauvaise gestion du secteur énergétique. Il indique que le Burundi vient de faire plus de 30 ans sans construire un seul barrage énergétique. Il estime aussi qu'il n'y a pas eu de modernisation proportionnelle à la demande. Ce juriste qui a requis l'anonymat ne mâche pas ses mots en disant que le pays s'enfonce dans une crise sans précédent.
Non, c'est la catastrophe. Vous parlez de la hausse de l'électricité, mais c'est la hausse de tous les produits. S'agissant de l'électricité, dès que vous contactez ces gens qui ont besoin de l'électricité pour la soudure, qui ont besoin de l'été pour la conservation des produits comestibles, c'est la catastrophe. Ils ne peuvent plus rentrer dans l'œuvre. Tous les produits, ça monte à cause de cela. Les ménages ne mangent plus deux fois par jour. C'est vraiment la catastrophe. Si le décideur ne fait rien, on va tout droit dans le gouffre.
Bien des spécialistes affirment que les produits comme les panneaux solaires sont indisponibles et que dans les autres pays de la région, ces produits ne sont plus taxés. Il est à signaler également que le Burundi ne produit qu'un 40e du potentiel électrique total. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, deux étudiants ont créé une poubelle technologique qui allie intelligence et écologie. Papa El Hadj Mandiagne Nyingé, 20 ans, étudiant en architecture, et Alune Badara Mbengue, 19 ans, étudiant en multimédia, communication digitale et e-business, voulaient au départ créer une bande dessinée, mais au fil des années et des concours, ils ont changé de cap. Reportage, Sedina Abagay.
On était amené à réfléchir sur la problématique de l'environnement au Sénégal et on devait chercher une solution au problème de la gestion des déchets. Donc on a fait un constat, c'est que le principal problème de la gestion des déchets ici, c'est qu'il n'y a pas de notion de tri. Les gens ne savent pas trier leurs déchets. Du coup, on devait trouver une solution à ce problème. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire carrément une poubelle qui va parler aux gens. C'est là qu'est né Balit avec d'autres membres de l'équipe, notamment Ousmane qui est automaticien, Mireille Chango et Ouri Diallo qui sont les développeurs. Donc Balit, c'est un dispositif électronique déjà, une poubelle physique en même temps. Lorsqu'on se présente devant l'appareil, il se met en marche et commence à vous parler littéralement en français puis en langue locale pour vous expliquer comment trier vos déchets. Donc cela permet non seulement d'introduire cette première étape de tri, mais aussi nous récupérons un ensemble de données qui permettent d'avoir une meilleure vision globale de l'environnement, mais aussi de faciliter le travail des gens qui sont en charge de la gestion et la collecte des déchets.
Pour financer et développer leur projet, les promoteurs de Mbalit misent avant tout sur leurs propres moyens, comme l'affirme Papa El Hadj Mandiagne Nyingé, 20 ans, étudiant en architecture.
Je vais préciser qu'on a eu à créer une start-up de design qui nous permettrait d'avoir des fonds pour financer les différents prototypes. Donc en ce moment, on a de quoi financer quelques prototypes. Et vu que selon notre business model, on a besoin d'avoir d'abord les clients pour ensuite produire, donc on n'a pas besoin d'avoir un grand financement qui va nous permettre de produire en masse avant de trouver des clients.
Les promoteurs de Mbalit veulent commencer la commercialisation de leur poubelle intelligente en 2018 au Sénégal et en 2020 dans d'autres pays d'Afrique. Pour ces étapes, ils espèrent bénéficier d'un financement conséquent afin de procéder à une production à grande échelle et ainsi minimiser les coûts de fabrication. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Bonne année. C'est avec Bonne année de Yokasa Yambongo, une chanson sortie en 1983 et donc vieille de 35 ans, que s'achève cette émission du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. Outreus Rigus était à la console. Présentation John Lydon. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Excellent début d'année à toutes et à tous.
Matin.